bien se connaître avant de se faire connaître. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est essentiel. On ne peut pas aller rencontrer des professionnels, assister à des séminaires en se présentant aux gens, et puis faire des recherches, si on n'a pas une idée de ce qu'on a envie d'aller chercher. Je pense que quand vous prenez votre voiture, vous savez où vous allez aller. Parfois, quand on part en voyage, les agents de voyage disent savoir faire la feuille. Je trouve ça très joli, c'est-à-dire être capable de se balader sans plan, aller au gré du vent et aller dans les rues qui nous attirent parce que on a envie de prendre du temps et puis être à l'écoute de tout ce qui arrive à nous. Alors faire la feuille, c'est sympa dans la recherche, mais je pense que il faut savoir aussi quand même avoir une piste et une idée quand même concrète de ce qu'on a envie de faire. Et donc pour moi, le projet professionnel par définition, c'est d'abord des pistes qu'on se construit. Et les pistes, on se les construit comment ? Ben, en ayant réfléchi d'abord à son identité professionnelle. Voilà. Donc cette identité professionnelle, c'est ce que je disais aussi hier sur la formation projet, c'est réfléchir à trois grandes dimensions qu'on retrouve d'ailleurs sur tous les CV et qu'on recherche quand on vous pose des questions en recrutement. Moi, en recrutement, je m'intéresse à trois domaines et un en particulier. Donc le premier, évidemment, c'est votre domaine de formation, tout ce qui est lié à vos connaissances, hein. Qu'est-ce que j'ai appris ? Qu'est-ce que je sais ? Et puis les connaissances ne s'arrêtent pas que à votre formation universitaire. Vous continuez à apprendre des choses sur le terrain, je pense. D'ailleurs, si on parle d'autodidacte, il y a des autodidactes qui réussissent très très bien et qui ont appris sur le terrain en même temps la pratique et la théorie. Je suis persuadée qu'au sein du labo, vous avez appris des choses que vous ne saviez pas faire avant d'aller au labo, par exemple. Alors, je vois que vous levez la tête, donc vous êtes en train de réfléchir. Donc, c'est voilà où c'est une évidence, hein, peut-être aussi. Donc, l'idée, c'est, dans un premier temps, de lister toutes ces connaissances. Qu'est-ce que je sais, hein, et puis, peut-être aussi, toutes ces connaissances issues de votre vie extra-professionnelle et qui pourront peut-être servir dans le cadre de votre projet professionnel. Parfois, vous avez des connaissances très pertinentes issues d'une démarche associative. Par exemple, vous travaillez pour une association de consommateurs, la défense des consommateurs, et vous êtes régulièrement en contact avec des avocats sur le droit. Et du coup, bah, vous avez appris certaines choses sur le droit en tant que citoyen. Et du coup, si demain vous intervenez pour une association ou même une entreprise, elle est ravie de savoir que vous connaissez certaines lois ou certaines lois liées à votre démarche associative, par exemple. Donc c'est de la connaissance pour moi. Après, il y a bien évidemment ce que vous savez bien faire et vous êtes conscient qu'en entretien, c'est ce qu'on attend de vous aussi pour aussi le projet, c'est définir vos fameuses compétences. Les compétences donc issues de vos expériences professionnelles et aussi, pourquoi pas, extra-professionnelles encore une fois. Et là, on est sur, à partir du parcours professionnel, à partir de tout ce que j'ai fait, et je le redis, et on le redit sans arrêt aussi avec l'association Contact, l'expérience professionnelle, la thèse en est une. Hein. Vous êtes déjà en train de développer des compétences parce que vous êtes en thèse. Donc la thèse, ce n'est jamais à mettre dans la partie formation d'un CV. Après, on pourra en discuter si vous n'êtes pas d'accord. Hein. Là, je vous donne que mon avis, mon humble avis. Je pense que ça doit figurer dans la partie expérience professionnelle. Vous êtes en contrat, vous êtes avec des obligations vis-à-vis d'un laboratoire, vous avez des comptes à rendre. Là, hier, j'ai fait une formation, elle s'est terminée à 5h30. Certains sont repartis au labo continuer des manips, parce que sinon, ils me disaient que... ils allaient avoir des soucis par rapport à leurs exigences qui se donnent aussi, hein, puisque vous êtes souvent extrêmement perfectionniste, pointilleux et engagé dans ce que vous faites, hein, ça j'ai remarqué. Et donc ne pas finir une manip ou rentrer chez vous en ayant l'esprit peu serein, c'est très difficile pour vous. Voilà. Je pense que ça se travaille aussi, hein. Je pense que c'est important aussi parfois de lâcher prise pour ne pas se faire manger par la thèse. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc les compétences issues de votre thèse, de ce que vous avez fait aussi avant, issue de vos expériences, parce que vous n'avez peut-être pas fait que la thèse pour l'instant, vous avez peut-être d'autres expériences. Donc faire le point là-dessus. Et bien évidemment, quelque chose qu'on ne fait pas forcément, et que je vous conseille de faire pour notamment réfléchir au projet, et donc bien se connaître, c'est déterminer les niveaux de compétences que vous avez de vos expériences. Donc en gros, c'est vous raconter vos journées de travail pour les transformer en compétences. Hein, donc en verbe d'action, si je raconte ce que j'ai fait aujourd'hui dans mon travail, comment je vais le lister, Hein, comment je vais raconter ça sous forme de tâche? Alors ce matin, j'ai fait quoi, hein? Comme on fait avec les enfants, hein? Qu'est-ce que tu as? Raconte-moi ta journée. Donc ce matin, j'ai fait ça. Et puis vous énumérez sous forme de puce. Hein? Et là, vous arrivez à dégager des verbes qu'on appelle des verbes d'action, qui sont souvent issus des compétences. Hein? Et à partir de là, une fois que vous avez fait ce travail, qui n'est pas facile, hein? Ça prend du temps. Un conseil important, c'est d'arriver à évaluer le niveau de ces compétences. Parce qu'en fait, lister vos compétences, c'est bien, mais savoir quel niveau vous avez de ces compétences, c'est une autre étape. Et ça, c'est ce qu'on recherche aussi dans le cadre d'un projet. Et c'est ce qu'on recherche aussi quand on vous pose la question, quelles sont vos compétences? Question qu'on pose toujours en recrutement, notamment. Ou même lorsque vous allez rencontrer des professionnels. Je crois, hein. Vous me direz. Ce que vous en pensez, vous me direz si ça vous parle tout ça. Donc sur les compétences, on a quoi? On a est-ce que je suis débutant? Est-ce que si je suis dans de la maîtrise? Est-ce que je suis dans de l'expertise? Hein? Donc ça aussi, c'est important de se poser la question. Et puis parfois, ça peut être intéressant aussi de demander, pourquoi pas, ils sont là pour ça aussi, hein, à vos directeurs de thèse, à vos encadrants, à vos collègues. À quel niveau tu penses que je suis experte dans mes missions au labo? À quel niveau tu penses que je suis plutôt dans de la maîtrise? Et à quel niveau je suis plutôt novice, débutante? Hein? Et puis, dernier champ qui m'intéresse très très fortement, forcément vu ma discipline de psychologue du travail, c'est les savoir-être. Et donc, bien évidemment, les fameux savoir-être, où on est là dans l'idée de cerner vos capacités professionnelles, vos traits de caractère, vos zones de potentiel, hein, en dehors de ce qu'on me demande de faire, quelle personnalité j'ai pour le faire. Et bien évidemment, je dirais que c'est quelque chose de très important, puisqu'en fait, à CV égal, en entretien, on rencontre une personne. Donc dans personne, on s'intéresse à quoi? Sa personnalité, à ses traits de caractère, à ce qu'elle a envie de faire, à sa motivation, à ses aspirations, et surtout à ses projections. Donc le projet, c'est aussi à court, moyen et long terme. C'est pas parce qu'on vous pose la question et qu'est-ce que vous souhaitez faire au sein de l'entreprise et comment vous voyez l'avenir chez nous qu'on a envie de vous embêter. Au contraire, c'est une question très sympathique. C'est qu'on a envie de se projeter avec vous, mais pour se projeter avec vous, il faut qu'on soit sur ce que j'appelle la même longueur d'onde. Donc si vous, vos attentes s'arrêtent juste au poste et aux missions qu'on vous demande, ben peut-être que c'est un peu dommage. Donc l'idée, c'est à la fois de réfléchir au profil de poste, mais de réfléchir aussi à comment vous avez envie de vous projeter avec l'entreprise. Et c'est comme ça, je pense, que vous allez commencer à avoir envie d'activer des réseaux. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas forcément au clair sur le projet professionnel tel qu'on l'entend. Alors, projet, ce n'est pas juste être enseignant-chercheur. Hein. Enseignant-chercheur, pour moi, c'est une fonction, mais ça ne suffit pas. C'est où, c'est comment, c'est avec qui, c'est dans quel cadre? Vous voyez, en fonction du métier qu'on fait, je crois que pour ceux qui ont aussi de l'expérience déjà, en fonction de là où vous le faites, vous ne faites plus le même métier. Alors je prends souvent l'exemple de l'infirmière, parce qu'on voit tout ce que c'est qu'une infirmière. Une infirmière qui travaille en maison de retraite, une infirmière qui travaille en libéral, une infirmière qui travaille en bloc opératoire, ou une infirmière qui travaille dans un centre hospitalier, pour moi, ce n'est pas le même métier. Donc quelque part, elle a le même diplôme, mais en réalité, elle peut faire des choses complètement différentes avec le même diplôme. Est-ce que ça vous parle? Je crois que vous, c'est la même chose. En fonction de votre thèse, de votre doctorat, vous allez, certains, partir en recherche-développement, certains vouloir absolument passer des concours pour rester dans le milieu universitaire, d'autres vont peut-être créer leur entreprise et lancer une start-up, et que je vais retrouver sur Cap Alpha et Cap Omega. Notamment, vous avez un réseau incroyable sur Montpellier de gens qui se lancent et qui se créent et qui impulsent une dynamique incroyable. Et je pense que là-dessus, ça commence à se savoir, moi, je trouve. Parce que quand je parle de Montpellier, très vite, on me parle de ces pépinières d'entreprises et de ces start-up. Et quelquefois, d'ailleurs, vous avez des reportages, hein, sur eux. Hein, et souvent, ce sont des personnes qui sortent à peine de leur thèse, mais qui ont réussi aussi à bien s'associer. Bien s'associer, c'est aussi se dire, tiens, par rapport à mon projet, qu'est-ce qui me manque comme compétence et comme capacité, et avec qui je pourrais m'associer pour pouvoir, avec l'autre personne ou les autres personnes, faire entre guillemets un surhomme. Bon, on n'est jamais parfait, mais c'est ça aussi les secrets de la bonne association, je pense. C'est pas qu'une histoire d'argent. Et d'investissement, hein. C'est aussi un investissement, un potentiel humain, et je pense que là-dessus, les startups qui ont fonctionné, c'est aussi celles qui ont bien su s'associer. Je pense que c'est le cœur du, C'est l'une des clés de la réussite. Après, ce n'est qu'un avis, après avoir échangé avec certains.